On est dans une série où on s'expose comme Église. L'Église de l'espoir s'expose, affiche ses couleurs. On veut parler de qui on est, ce que le Seigneur a fait de nous, ce qui nous caractérise comme Église, nos couleurs. La série, c'est une Église contagieuse. Vous avez bien compris que ça allait avec le thème de la pandémie, là. Tu sais, l'idée d'être contagieux, c'est aussi à travers l'Évangile, vouloir rayonner. Puis c'est le thème aujourd'hui. Une des couleurs de l'Église de l'espoir, c'est qu'elle rayonne. Elle va jusqu'aux extrémités de la terre pour propager l'Évangile. C'est une Église qui forme des ouvriers. On l'a vu il y a deux semaines. C'est une Église qui aide d'autres Églises. C'est une Église missionnaire, une Église qui a un centre de counseling, qui forme des disciples, qui envoie aussi des ouvriers. Et on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire rayonner. Je cherchais dans Larousse, rayonner, la définition de rayonner veut juste dire répandre une vive lumière. Bien évidemment, dans le contexte de l'Évangile, on parle de l'Évangile. L'Église de l'espoir veut répandre l'Évangile. C'est une Église qui diffuse le message, qui s'investit pour le royaume. En octobre, on fête notre 61e anniversaire. Et là, je n'ai pas le goût qu'on se pète les bretelles là, pendant 35 minutes encore, là, parce que ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande, parce que c'est lui qui fait le travail à travers nous. Tout est pour lui, par lui. C'est seulement lui qui fait tout ce qu'on a fait, et on peut juste dire merci Jésus. On peut juste le remercier. On est une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus et au service de sa communauté. Donc, on ne cherche pas à se cloner, on ne cherche pas à se glorifier, on ne cherche pas à s'exposer non plus, mais pour nous, on est profondément convaincus que l'Évangile doit rayonner jusqu'aux extrémités de la terre. En partant d'ici, et on va plus grand, le Québec et le monde entier, on veut que l'Évangile soit connu. Mais une Église qui rayonne, c'est juste la somme de ses rayons. On pourrait dire ça comme ça. Une Église qui rayonne ne peut pas rayonner plus fort que ses membres. Comment ses membres rayonnent? Puis ce matin, c'est là qu'on va aller. Parce qu'il y a un piège quelque part. Quand on a 61 ans, on est une Église établie, on peut à un moment donné faire plein d'affaires. Hein? On fait plein d'affaires, puis oublier l'essentiel. Et je vous ramène à un passage, ça m'a rappelé Apocalypse, chapitre 2, verset 2, où Jésus est en train de remettre une église un peu à sa place, une église super incroyable là, qui était l'église d'Éphèse dans le temps. Il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ceux qui ne le sont pas et que tu les as même trouvés menteurs. » Donc, une église centrée sur la parole, une église travaillante, une église résiliente. Hein? Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais, il y avait un mais. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On peut se perdre dans les activités. On peut se perdre à faire plein d'affaires. C'est glorifiant, c'est grisant, mais on doit aller plus loin que ça. On doit aller à la source même du pourquoi on le fait. Puis c'est là qu'on va aller ce matin. Ce matin, on passe d'Éphèse, de Longueuil à Éphèse en allant vers Antioche. Antioche était une église qui rayonnait dans le temps. Une super église rayonnait. Il y avait Jérusalem, il y avait Antioche il y a 2000 ans. Et on va aller, à travers l'histoire d'Antioche, regarder ce que nous sommes. Et on va aller dans Actes 13, les versets 1 à 5. Et on va voir les attributs d'un chrétien rayonnant qui font qu'une église rayonne. Parce que si une église peut rayonner, c'est parce que les membres qui sont dedans, eux, rayonnent. Ça ne vient pas tout seul comme ça, là. C'est les membres. L'Église, c'est les membres. L'Église, ce n'est pas une entité. Donc, comment nous, là, comme chrétiens, on peut rayonner pour que notre Église puisse être un rayon de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre? Ça vous intéresse de savoir ça? Bien, on va prier, puis Julie va venir nous lire le passage d'aujourd'hui. Prions. Seigneur Jésus, on veut certainement pas se penser au-dessus de nos pompes. On veut, Seigneur, que toi, tu nous enseignes, que toi, tu élèves ton nom. On veut tout faire pour ta gloire et on te demande ce matin d'éclairer notre cœur, de nous enseigner. Parle, Jésus. Notre cœur est grand ouvert et on veut savoir comment on peut être des chrétiens qui vont rayonner parce qu'on croit en l'Église et on croit que cette Église doit rayonner jusqu'aux extrémités de la terre. Fait que, Seigneur, ce matin, enseigne-nous, parle à notre cœur et c'est en ton beau nom que nous te prions. Amen.
Versets 1 à 5 dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Actes, chapitre 13, versets 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétraque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide.
C'est la parole de Dieu. Et cette histoire-là n'est pas là pour rien. Comme je disais tantôt, Antioche était une église qui a rayonné dès le début dans le monde païen de l'époque. Il y avait Jérusalem et Antioche. Et de Antioche est né, on ne peut pas savoir combien, mais des églises, beaucoup d'églises. Et cette église-là est devenue un support pour les autres églises. Quand il y a eu des temps de crise, on a consulté Antioche, on a fait des collaborations étroites avec Antioche. Antioche a aidé les chrétiens de Jérusalem. C'était une église qui rayonnait. C'était une église qui rayonnait. Fait qu'à travers ce texte-là, on a plein de choses à apprendre pour nous autres. Comment nous, comme chrétiens, on peut rayonner pour que notre église rayonne? Et on va commencer avec le verset 1. J'y vais par exposition ce matin. Fait qu'on y va, toc, 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 toc. C'est comme ça que j'aime prêcher, en exposant le texte. Verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saül. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Premier attribut pour être un chrétien qui rayonne dans son Église, c'est la collaboration, c'est de collaborer. Et on le voit ici, là, dans ce texte-là, là, on voit quelque chose de vraiment intéressant. Ce n'est pas pour rien qu'on commence à nous nommer les gens et on donne des petites caractéristiques de ce qu'ils sont. On part avec Barnabas. Barnabas est un juif, un lévite qui vient de Chypre, qui s'est converti au christianisme, un encourageant, un homme de cœur, c'est Barnabas. On a Siméon appelé Niger. On l'appelle Niger parce que Niger veut dire le noir. Il était noir ou de la peau très foncée et il était sur l'équipe pastorale de cette église-là. Lucius de Cyrène. Bon, Lucius, c'est un nom latin, probablement un romain. On n'a pas toute son histoire, on n'a pas son CV avec nous, malheureusement. Mais on sait qu'il vient de Cyrène, qui était en Afrique du Nord. Et un nom latin qui a probablement été un romain lui-même. Manaen, on dit, qui a grandi avec Hérode. Et le mot ici là, veut dire qu'il était comme frère adoptif. Fait qu'il a vraiment grandi dans le palais. C'était un gars qui a connu la grosse misère, pour dire ça de même. Et Saül, évidemment, on connaît Saül, un pharisien. Un gars qui a été élevé au pied de Gamaliel, il nous fait tout son CV dans la parole et c'était un homme extrêmement zélé. Cette église-là, on croit qu'elle a été démarrée par Saül et Barnabas, mais en tout cas, c'est les deux leaders très, très influents. Et ces gens-là, déjà en partant, on voit que dans cette église-là, on rayonne dans la diversité. C'est la première chose qu'on peut dire quand on veut collaborer, c'est on n'est pas là justement pour avoir des petits groupes homogènes. Où tout le monde est pareil, tout le monde est semblable. D'une manière ou d'une autre, c'est une espèce d'illusion, ça, de penser que si on se rassemble en personne toutes pareilles, tu sais, ben, qu'il n'y aura jamais de conflit. Hein, non, ça ne marche pas de même. Le problème, ce n'est pas la couleur de la peau, ce n'est pas le statut social, ce n'est pas l'instruction non plus. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Donc, déjà en partant, cette église-là avait compris quelque chose, que le rayonnement se passe beaucoup dans la diversité. Et je vais vous dire de quoi, l'année passée, j'ai été... Bon, moi, ça fait un an et quelques mois là, que je suis vraiment établi à Longueuil, à l'église de Longueuil. Et l'an passé, je ne me rappelle plus, en septembre passé, on a fait une espèce d'exercice, c'est Yannick qui a fait ça. Il y avait 26 nationalités dans l'église de l'Espoir. C'était ça, hein? 26 nationalités. Je trouvais ça merveilleux. Je trouvais ça wow, 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 de voir autant de nationalités qui collaborent, qui coopèrent et qui ont un objectif et un but commun, une même mission, que l'Évangile puisse se propager et rayonner jusqu'au bout du monde. C'était tellement beau à voir. C'est l'essentiel d'avoir l'esprit ouvert et de dire, on travaille ensemble, on fait fi des différences qu'on a. Ce qui nous unit, c'est Jésus. 1 Corinthiens 12, 13, Paul disait, en effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Et c'est essentiel d'avoir cet esprit-là ouvert pour rayonner, parce que d'autant plus que, si on parle de Longueuil, Longueuil est une ville cosmopolite, où il y a beaucoup de nations, beaucoup de gens, des classes sociales différentes, et c'est exactement le portrait qu'on a ici à l'Espoir, et je trouve ça fantastique. Moi, ça me rend très fier, mais pour nous, comme chrétiens, on doit avoir cette ouverture-là de dire, OK, la collaboration passe par la diversité. Puis, on pourrait dire, oui, la diversité, mais ce n'est pas suffisant. La collaboration inclusive, ce n'est pas une collaboration sans fondement. Puis dans notre texte, justement, on voit, on dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Et encore là, le Seigneur ne fait jamais rien pour rien. Il ne laisse jamais rien au hasard. Si on prend la peine de nous dire que c'était des prophètes et des docteurs, ce n'était pas des experts du marketing, ce n'était pas des experts de l'organisation. On dit non, non. Où on veut insister, c'est autour de la parole. Les prophètes, c'était ceux qui proclamaient la parole de Dieu à une époque où le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Paul n'était même pas encore parti d'Antioche pour aller écrire ce qui restait du Nouveau Testament. Et l'Apocalypse n'était pas écrit encore. Et il en restait encore un bout. Et les gens avaient besoin d'avoir ce contact-là avec les prophètes du Nouveau Testament, mais aussi des docteurs. Les docteurs, c'est ceux qui enseignaient cette parole. Tu avais ceux qui la proclamaient, ceux qui l'enseignaient. Et le point à retenir ici, c'est que le fondement même de cette coopération-là, c'était pas l'organisation, c'était pas une bonne musique le dimanche matin, c'était la parole de Dieu. Tout était appuyé et accoté, fondé sur la parole de Dieu, comme Paul a écrit aux Éphésiens un peu plus tard en disant, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Notre collaboration est fondée sur des valeurs communes et ces valeurs-là sont tirées directement de la parole de Dieu. C'est notre couleur distinctive. Si on regarde là, toutes les prédications qu'il y a eu dans le passé sur cette série-là, une église contagieuse, on affiche nos couleurs et à chaque dimanche, on revient là-dessus. Notre couleur principale, c'est la parole de Dieu. Même dans notre adoration, vous vous rappelez, j'ai prêché là-dessus. Même les émotions qui viennent de l'adoration ne sont pas sur l'expérience, mais ils sont tirés de la parole de Dieu. Notre collaboration est ancrée dans la parole de Dieu et c'est cette parole-là qui nous unit. Le passage ne s'arrête pas là, mais ce n'est pas tout. On peut être dans la diversité, on peut être centré sur la parole, mais il faut aussi rayonner ensemble. Le Seigneur n'aime pas les mercenaires. Il veut qu'on travaille ensemble. Et encore là, le passage est assez clair là-dessus. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, déjà, on voit l'esprit, l'idée des dons spirituels quand il parle de prophètes et docteurs. On dit non, non, tous ces dons-là sont pour l'utilité commune, pour l'avancement de l'Église, pour le perfectionnement des saints. C'est au service les uns des autres que Dieu nous donne des dons. Et les talents aussi et le service est là aussi dans l'idée de pouvoir rayonner ensemble, avoir une vie d'équipe où chacun se fait confiance, chacun est conscient de ce que le Seigneur lui demande, de ses forces, de ses faiblesses. Chacun sait qu'il est, par exemple, on parle de prophètes et de docteurs. Bien, les docteurs ne sont pas prophètes, les prophètes ne sont pas docteurs. Et chacun respecte ce que le Seigneur a fait à travers chacun de nous. Et ça aussi, c'est une base pour être une église qui brille et qui collabore. C'est cette base-là du, on appelait ça le congrégationalisme. Vous savez, on travaille tous ensemble. On a tous le même Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit, il n'est pas plus grand que le tien. Le tien n'est pas plus grand que le mien. C'est ensemble qu'on arrive à faire la volonté de Dieu puis à rayonner. Ce n'est pas une personne qui arrive puis qui amène tout le train avec lui. On n'est pas le grand Antonio, là, tu sais, qui tirait des avions, là. Non, ça ne marche pas dans le monde spirituel. C'est juste le Saint-Esprit qui nous unit. C'est la parole de Dieu qui est notre fondement. Et c'est notre but, c'est d'avoir Jésus glorifié à Longueuil, dans la Montérégie, au Québec, jusqu'aux extrémités de la terre. On prend nos décisions en assemblée parce qu'on sait qu'une église qui rayonne, c'est premièrement le résultat de tous les chrétiens qui sont là et qui rayonnent en collaborant ensemble. C'était le premier attribut d'une église qui rayonne par ses chrétiens qui rayonnent, c'est de collaborer. Mais on continue dans notre texte. On est au verset 2. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est souvent la question qu'on me pose. J'ai coaché beaucoup de personnes, puis on me pose souvent cette question-là. « Oui, mais là, qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Mais là, qu'est-ce que je dois faire? » Puis ça, mais moi, tout, à chaque fois, je dis, « Plonge! Plonge! Serre! » Ça, Dieu est souverain, il va te guider là où il a besoin de toi. Tu vas voir, à un moment donné, là, ça va faire clic. Ah! tu vas te découvrir. Il y a plusieurs bonnes raisons là-dedans, mais c'est dans l'action que le Seigneur nous montre notre place. C'est dans l'action qu'on se frotte les uns avec les autres. Ce n'est pas toujours agréable, mais que chose sûre, c'est toujours gratifiant. On grandit au contact les uns des autres. Comment je vais apprendre la patience? Si Dieu ne me met pas quelqu'un qui vient à bout de ma patience. Sérieux. Comment je vais apprendre la bonté si je n'ai pas des occasions d'être bon? Comment je vais apprendre la bienveillance si je n'ai pas des occasions d'être bienveillant? Et tous ces dons-là du Saint-Esprit, cette expression-là du caractère de Jésus, bien, se passe quand on est ensemble, les uns les autres, quand on se frotte les uns sur les autres. C'est le plan de Dieu. L'Église locale, c'est le cadre privilégié que Jésus a prévu pour notre croissance, mais aussi pour notre rayonnement. On est un échantillon du royaume de Dieu et de Jésus dans notre communauté. Si quelqu'un rentre ici, il dit, « Ah ben oui, j'ai vu Jésus, j'ai vu l'Église d'espoir. » Paul disait aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27, un Corinthien, il dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et c'est un peu comme la colle époxy. L'activation de ça, c'est... Vous avez déjà vu la colle époxy? Non? Peut-être? Je vais vous expliquer ça. C'est deux tubes. T'as un tube, je veux juste être sûr de ne pas me tromper, là. T'as un tube de résine puis t'as un tube de durcisseur. Habituellement, les deux sont connectés ensemble. Si tu prends juste de la résine, c'est très gluant, c'est vraiment dégueulasse. Le durcisseur, lui, c'est plus irritant, je dirais. C'est tellement une belle image. Parce que les deux, quand t'es mélangé ensemble, ça devient une colle, on dit, je disais, là, un lien résistant, solide et puissant. Et c'est vraiment l'image d'être ensemble. Quand on est ensemble, il y a une chimie qui s'installe. Et quand notre désir, c'est de rayonner Jésus entre nous, puis que ça déborde, bien là, il se passe quelque chose. Des liens solides, résistants, qui dit « Oui, je vais pardonner. Je vais pardonner parce que Christ m'a pardonné. » Et puis, pour en rajouter avec la collaboration, chacun est comme un morceau manquant de l'autre. Quand on est dans une église locale, c'est comme ça que ça marche. C'est comme si c'était un morceau de casse-tête que l'autre n'est pas, puis qu'ensemble, on développe l'image de Christ. C'est un peu l'idée. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. La première fois que je suis venu ici, j'ai été vraiment surpris. Première réunion des responsables, il y en avait tellement. J'étais étonné, tu sais, pour une église de 350 personnes, il y en avait beaucoup. Et je me disais, wow, OK, c'est une église qui sert. Comme je disais tantôt dans mon introduction, le danger avec de servir, c'est de perdre le premier amour. Ça, c'est le danger, parce que c'est grisant à servir. Mais au-delà de ça, on est une église qui sert. Et ça, oui, je suis fier de ça. En Tartia, chez nous, il y avait quelque chose qu'on a compris, et qu'Antioche avait compris, que ça passe par les autres, ça passe par le service. L'Église de l'Espoir est une Église qui sert les autres Églises. Et nous, comme chrétiens, on est des chrétiens qui se servons, nous sommes des serviteurs les uns des autres. C'est un acte d'amour. Hein? Peut-être que tu n'es pas conscient de ça, mais de servir, c'est un acte d'amour. C'est un peu l'indicateur de ce que tu as compris de l'amour de Christ, on pourrait dire, d'une certaine façon. Ton degré de service, quand Jésus dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », c'est une expression de ta compréhension de l'amour. C'est une façon de reproduire Jésus dans ton église, dans ta région. Puis c'est intéressant parce que le mot qui est utilisé ici pendant qu'il servait le Seigneur, c'est pas le mot d'où on sort le mot diacre. C'est pas l'idée de qu'on pourrait aller jusqu'à obéissance. Tu sais, OK, je fais ça parce qu'il me l'a demandé. Non, non. C'était l'idée de servir volontairement avec mes propres ressources. C'est intéressant. Pendant qu'ils servaient volontairement avec leurs propres ressources, l'Église, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il y a quelque chose d'intéressant. La nuance est super importante ici. Sans rien attendre en retour, sinon de voir Jésus rayonner à travers mon service, à travers mon Église, à travers ce qu'on est. Fait que servir, c'est le deuxième attribut. Troisième attribut, on continue le texte. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Mardi passé, c'était intéressant, on avait une réunion des responsables de groupe Connexion ici. Et là, tu savais comment ça marche, tu as par Zoom. Là. Fait que, tu sais, par Zoom, c'est rare que ça commence à l'heure tapant, là, parce qu'il y a tout le temps du monde qui arrive un peu plus tard. Puis tout ça. Puis là, fait que là, tu commences à jaser avec ceux qui sont là. Puis là, à un moment donné, la réunion est partie. J'ai commencé à parler tout ce que j'avais à parler aux leaders. Et là, Céline arrive comme ça, elle dit, ben là, c'est parce qu'on n'est pas une business, là. Il faudrait peut-être prier. Elle avait ça. Totalement raison. Il y a un danger à servir. C'est le danger de faire plus que ce que Jésus nous demande ou d'en faire moins peut-être, mais c'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Chercher la face de Dieu, lui demander ce qu'il attend de nous, c'est essentiel pour rayonner. Et on le voit ici, là. Ces chrétiens-là de l'église d'Antioche, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Et ce que je trouve ça bien, parce que c'est pas servir ou prier. Tu sais, dans le genre, comme si on alternait. Comme si la prière était une activité. OK, là, je sers, on arrête tout. OK, là, je prie. Et là, OK, on repart. Là, je sers, là, je prie. Ça, c'est le frein. Tu sais. Bon. Des fois que. Mais c'est pas servir ou prier, c'est servir en priant. C'est super intéressant. Prier, c'est beaucoup plus un style de vie qu'une activité. Et oui, on prend des temps de prière, mais entre les temps de prière, il ne faut pas que ça arrête là. Prier, c'est d'abord un effort de conscience, c'est-à-dire de prendre conscience de la présence de Dieu. Et c'est dans cette optique-là que Paul dit avec assurance dans 1 Thessaloniciens 5:17, « Priez sans cesse ». Ben oui, c'est de prendre constamment conscience que Jésus est là, que Dieu est là, que cet esprit est là, qu'on est accompagné, pas juste avec quelqu'un à côté de nous, mais même Christ en nous. C'est de toujours se rappeler cette réalité-là de la vie chrétienne. Un chrétien, puis une église qui rayonne cette habitude-là, cette habitude de la vie de prière. Parce que la prière, c'est une recherche. Ce n'est pas simplement une liste. Ben, tu sais, quand on commence à prier, souvent, on va y aller avec des longues listes. Puis c'est correct. Là, on parle d'intercéder, on expose des besoins. Puis là, ben, avec la maturité, il y a comme une relation qui devrait s'installer avec Jésus. Tu sais, c'est Jésus. C'est pas juste service à l'auto, là. Tu sais, bonjour, ici Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Oui, j'aurais besoin d'un nouveau bicycle avec Simtik, comme quand tu arrives à la commande à l'auto, là. Ça ne devrait pas être comme ça. C'est une relation. C'est une relation. C'est avec, pas juste mon sauveur, c'est aussi celui qui dit « Vous êtes mes amis ». c'est mon Dieu, c'est mon Père, c'est celui qui m'aime le plus dans l'univers, qui était prêt à se faire crucifier pour moi, et qu'il y a une relation qui s'installe. Et là, j'apprends à le connaître, j'apprends à discerner sa voix, j'apprends à apprivoiser cette dynamique-là, souvent même dans des silences qui peuvent être malaisants, mais c'est là que Dieu se trouve. Une relation vivante, mutuelle. Moi, je crois personnellement, et, ben, je ne suis pas tout seul qui croit ça, là, je l'ai lu dans d'autres choses aussi, mais le gros de la prière, ce n'est pas d'exposer des requêtes devant Dieu, mais c'est plutôt d'aligner mon cœur avec le sien. Ce n'est pas d'exposer une série de requêtes, mais c'est plutôt d'aligner mon cœur avec le sien. Découvrir sa volonté, chercher son travail, chercher sa face, puis plonger dedans, vraiment plonger dans sa volonté, me contenter de lui seul, d'avoir cette assurance-là que ce que je suis et ce que j'ai est suffisant pour accomplir ce qu'il me demande aujourd'hui. Ça, c'est le secret du bonheur, les amis. Sérieux, tu veux avoir la paix de Christ qui surpasse toute intelligence? Bien, j'ai quelques petits passages pour vous. Acte 9, 6, je pense que ça va apparaître. Première chose que Paul dit à Jésus après l'avoir rencontré, c'était quand même assez frappant. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Il n'a pas dit, « OK, c'est correct, on va tous organiser un comité à cette heure que j'ai rencontré Jésus. On va blower la planète avec toi, Seigneur, puis je vais tout organiser ça. » Non, non. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a dit, « OK, va t'asseoir là-bas. On va attendre un petit peu. Il y a quelqu'un qui va aller te voir. » Intéressant. Jean 14, 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » La clé n'est pas dans « je le ferai », la clé est en mon nom. Et pour demander quelque chose en son nom, ça demande d'aligner mon cœur avec le sien. C'est-à-dire de demander quelque chose avec cette assurance profonde que Jésus demanderait la même chose. Autrement dit, que ce soit le Saint-Esprit qui le demande à travers moi. Parce que Christ en nous, hein, l'espérance de la gloire, c'est, la Bible nous le dit, ben, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas une formule magique en passant. Là. J'ai tellement entendu ça des fois. Au nom de Jésus! Il n'y a pas le choix, j'ai dit au nom de Jésus. T'sais, il va falloir qu'il le fasse à cette heure. T'sais. Non. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, OK, j'ai cette relation-là avec le Seigneur, cette intimité-là avec lui, où j'ai l'assurance que maintenant, mes désirs personnels sont morts, et je suis mort à moi-même, et je crois vraiment que Jésus demanderait ça. Peut-être qu'il ne demandera pas une Lamborghini cette année. Peut-être pas. Philippiens 4, 6 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et avec des supplications et avec des actions de grâce. » Vous voyez, il n'est pas contre le fait d'élaborer des listes, puis de demander des choses, mais le but, c'est quoi? Il y a un « mais ». Ne vous inquiétez de rien, mais parce qu'on est ce qu'on est, parce qu'on ne s'inquiète à rien, parce que, vous savez, l'inquiétude, c'est quand tu arrives en face de tes propres capacités. Tu regardes la réalité, tu regardes tes capacités, puis là, ben, quand tu vois que tes capacités ne sont pas capables de rencontrer la réalité, il se passe un petit stress. Il y a comme une inquiétude qui s'installe. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, inquiète-toi pas, parle-moi-en. Commence par venir voir le roi des rois, le Dieu de l'univers, puis tu vas réaliser que ce que tu es et ce que tu as est suffisant pour accomplir ce que je te demande. N'essaie pas d'en faire plus. Tu vas juste être stressé pour rien. Mais fais-en pas moins. Parce que quand même, c'est Jésus. Tu sais, trouver la bonne ligne. Puis, cette Église-là, elle est encore plus loin. On dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Là, le jeûne, là, ça c'est comme, je ne dirais pas que c'est next level, mais quand tu comprends bien le jeûne, c'est le résultat de cette faim de Dieu-là. Là. Tu as tellement faim de Dieu, parce que là, tu l'as tellement goûté dans ta vie, que tu en veux plus. Tu en veux tellement plus que tu es prêt à te priver de nourriture, de te concentrer, de consacrer complètement ton énergie pour avoir cette relation-là à travers Dieu. Et c'est intéressant qu'eux, pendant qu'ils priaient et jeûnaient et qu'ils exerçaient leur ministère en même temps. Une église ou un chrétien qui rayonne va chercher premièrement le royaume à travers la prière et le jeûne. Et je sais qu'ici, on fait ça. Depuis que je suis là, il y a eu des moments de jeûne où on n'avait pas de réponse, on ne savait pas qu'est-ce qu'on avait à faire. On organisait une journée de jeûne, on priait ensemble, on a prié par Zoom, on a prié en réunion, et je vois que l'Église prie. Il faut continuer. Il faut continuer avec cette idée-là de dire « Je cherche la face de Dieu », parce qu'au-delà de ça, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Fait que ça ne donne rien de faire des millions de choses si ce n'est pas les choses que Dieu nous demande. C'est simple de même. La dernière chose, dernier attribut, j'ai marqué « payer ». Je pense que ça va être écrit ça. « Payer ». Oui, on ne parlera pas d'offrande. Ouais, qu'il y a peut-être un peu de ça. Acte 13, 2. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir prié et jeûné, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il n'y a pas longtemps, en fait, c'était la semaine passée, quelqu'un me dit, il y avait un travail pour moi, des affaires de musique, puis c'était quand même l'ouvrage, enregistrer des chants, tout ça. Et je lui demande, as-tu un budget pour ça? Et il me dit, ça va sembler, c'était comme un non. Puis, mais j'ai quelqu'un qui pourrait le faire gratuitement. Je lui ai répondu, on n'a jamais rien pour rien. Il n'y a jamais rien de gratuit. Il n'y a jamais rien de gratuit. Ça peut être ton temps, ça peut être ton argent, ça peut être de te priver de quelque chose ou de te priver de quelqu'un. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a des choses gratuites sur la terre. Il y a toujours quelque chose à sacrifier. Ce n'est pas compliqué. C'est une réalité. Et ici, là, le prix à payer pour Antioche, c'était envoyer Paul et Barnabas, leur gars, là, c'est quand même pas n'importe qui. Là. T'envoies tes deux capitaines, pratiquement. Là, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, Paul et Barnabas ne seront plus là. On va être prêts avec les autres. C'est ça, là, c'est parce que souvent, on a cette réflexion-là, je dirais, c'est comme un calcul inversé. On regarde plutôt ce qui va nous rester, ou plutôt on se met à calculer en fonction de nos propres ressources. Un peu comme ces gars-là, à un moment donné, une fois, c'est un Jésus qui traverse le lac, il y a des milliers de personnes. Et là, Jésus commence à les enseigner. Il est ému de compassion, il les enseigne. Puis là, ça dure, il commence à avoir faim. Les disciples disent, il serait peut-être temps de les renvoyer dans le village qui a le manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et là, l'équation, il dit, voyons donc, on a juste une coupe de pain et de poisson, c'est impossible. Tu sais, ça va faire quoi, des petits morceaux gros de même pour tout le monde? On n'y arrivera pas. Tout le monde a mangé. C'est souvent le problème, c'est l'équation qu'on fait. Parce qu'on voit le sacrifice qu'on a à faire, puis là, peut-être qu'on n'a pas prié puis cherché la face de Dieu avant. Puis là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il va falloir se déchirer le cœur pour ce que Dieu nous demande. Quand on oublie que si Dieu nous demande quelque chose, c'est parce que c'est suffisant et il connaît déjà l'avenir et Dieu est souverain. Ça, on connaît toutes ces choses-là en théorie, là, tu sais. Mais tu sais, quand même, je veux vous ramener vers un passage intéressant, parce qu'on est tous prêts à payer un prix, là, en passant. Oui. Mais payer le bon prix, c'est pas toujours évident. Comme là, c'était un prix qui était coûteux, et à ce moment-là, il faut faire la bonne équation. Mais d'autres fois, ça peut être juste de dire, c'est de venir à l'église dimanche malgré mes craintes. Mais ça, peut-être que c'est ça que Dieu te demande, et que tu te bats avec Dieu depuis un bout. Peut-être que ça a rapport avec ton offrande. Peut-être que ça a rapport avec plein de choses. C'est entre toi et Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que payer un prix, on est toujours prêt à en payer un. Mais payer le bon prix, c'est pas toujours évident. Je vous rappelle Luc 14, 33 qui dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est comme, tu sais, je me disais, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce que j'y ai donné? J'ai la réponse là, dans la question. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, qu'est-ce que j'y ai donné? Ma vie, OK. C'est-tu juste des petits bouts ou des moyens bouts ou des grands bouts de ma vie ou c'est toute ma vie? C'est toute ma vie. Fait que quelque part, je ne devrais pas avoir peur. L'idée maintenant, c'est que j'ai pris la décision de m'abandonner entre les mains de Dieu. C'est lui qui est mon pourvoyeur. Fait que le prix à payer ne devrait jamais être un problème. Mais je dis ça parce qu'on le sait en théorie. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La théorie, on la connaît. Mais souvent, quand on arrive entre la théorie et nos craintes, pas toujours simple. Hein? Vous le savez autant que moi. Payer le bon prix, c'est jamais évident, mais celui que Jésus nous demande, c'est le prix à payer. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. L'intensité de mon rayonnement et de notre rayonnement va être proportionnelle au prix que je suis prêt à payer. Et c'est une fête. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Quand je connais le prix, bien, je prie. Puis je remercie. Puis je demande à Dieu de me donner de la sagesse de continuer dans ses voies. J'invite les musiciens à me rejoindre. Venez-vous-en. Une église qui rayonne n'est que la somme de ses rayons. Et là, on le voit avec l'église d'Antioche. On le voit aussi, il ne faut pas non plus faire de la fausse humilité. Il y a beaucoup de points où on est là. Il y a des points où on doit s'améliorer. Et là, je te pose la question à toi comme chrétien, toi à la maison ou ici, collaborer. Est-ce que tu as quelque chose à travailler là-dessus? Sans distinction de personne, travailler avec joie ensemble pour l'avancement du royaume. Servir, tu sais, prendre tes petits pains et tes poissons, prendre ce qui est de plus ordinaire, puis de te joindre à celui des autres, puis faire des miracles extraordinaires par Jésus. Peut-être c'est de chercher, c'est-à-dire ta vie de prière, chercher la face de Dieu, la volonté de Dieu. Ou peut-être que c'est de payer le bon prix. Tu es prêt à payer un prix, mais tu sais que Dieu te demande quelque chose, mais tu résistes. Ben, le but ultime, c'est de rayonner. Rayonner avec joie, avec cette paix-là que Dieu nous donne. Être l'Église ensemble pour se réjouir ensemble de voir le royaume de Dieu se construire. Puis là, il y a une fierté, sérieusement. Il y a une fierté d'avoir Dieu travailler à travers nous. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de dire, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu fais ton œuvre et tu veux bien nous utiliser pour faire ton travail. On est fiers de lui. On est heureux de lui appartenir. Puis on le voit à l'œuvre à travers nous. Prions. Seigneur, merci. Merci de ta présence. Merci de ce que tu es. Merci de ce que tu fais. Merci pour le rayonnement que tu désires jusqu'aux extrémités de la terre. On veut te prier pour chacun de nous ce matin, que tu nous donnes, tu dis fortifie-toi et prends courage. Que Seigneur, on saisisse le courage, qu'on saisisse la force qui est en toi pour chercher ta face, payer le bon prix, être courageux pour rayonner dans notre Église, dans notre région, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur de cette œuvre-là que tu fais au travers de nous. C'est toi qui l'as fait, c'est seulement toi qui es digne de gloire. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'on veut te louer et qu'on veut te chanter. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.